Qu'est-ce que la dyspraxie ?
Alors, d'abord, il faut savoir ce qu'est une praxie. La praxie, c'est un geste. Un geste, ça n'est pas un mouvement. Un geste, c'est le résultat d'une coordination motrice volontaire, non spontanée. C'est ça qui est important et qui est issu d'un apprentissage. Par exemple, tenir une fourchette ou tenir des baguettes pour nous nourrir, c'est une habitude culturelle et c'est un geste appris. Hein, ce geste est en lien avec ou une personne ou des objets. Ça demande donc pour effectuer une praxie, une conceptualisation de la tâche, c'est-à-dire de planifier la tâche, c'est-à-dire comment je vais m'y prendre, ensuite d'organiser dans l'espace et au niveau de son corps pour arriver à effectuer cette tâche, et ensuite de l'exécuter, c'est-à-dire de retrouver les positions en fait du corps et des différents membres et des différents donc tendons, positions, les angles au niveau des différents os et des muscles pour arriver à l'exécuter. Donc il y a vraiment trois processus, la planification, l'organisation et l'exécution. Une fois que le processus est acquis, ce geste semble spontané, il est devenu automatique. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus ensuite à comment on marche ou comment on attrape ses couverts ou comment on fait du vélo. Il suffit parfois de redemander à quelqu'un « fais attention à la façon dont tu marches » pour qu'on s'aperçoive que là, effectivement, il n'automatise plus, même quelqu'un qui n'a pas de trouble praxique. Donc, voilà ce que c'est qu'une praxie. Alors, ce qu'est une dyspraxie, c'est lorsque une personne éprouve des difficultés à programmer, donc à planifier, à organiser, et automatiser la coordination des gestes volontaires. Donc, il souffre d'un dysfonctionnement des praxies, d'où une dyspraxie. Donc, quand on prend par exemple une bouteille d'eau, on la soulève automatiquement et on ajuste notre geste en fonction du poids, de la masse de l'eau pour verser le liquide. Or, en fait, il faut prendre en considération la hauteur du verre, la position dans l'espace, est-il posé sur une table ou dans la main de quelqu'un. Et donc, on doit coordonner plusieurs facteurs, notre posture, la modulation de la contraction et de la décontraction des muscles, le contrôle de la direction, de l'amplitude, de la force, et on le fait sans réfléchir, parce que c'est automatique, c'est devenu automatique, mais il suffit de réfléchir pour les adultes comment ils ont appris à conduire avant qu'ils puissent regarder le paysage, ils ont dû apprendre à automatiser, la même chose pour l'écriture. Ah, maintenant, ils ne pensent plus quand ils font un A à faire un rond et une petite canne, par exemple, à l'envers, c'est automatique. Mais dès qu'ils devront réapprendre du chinois, ce ne sera plus du tout automatique. Donc voilà ce qu'est une dyspraxie, c'est cette difficulté à automatiser.
Quels sont les symptômes aussi de cette maladie ?
Les symptômes, donc tout dépend de ce qui est atteint. On peut avoir et ou des troubles au niveau de la coordination globale, avec des problèmes de tonus, de régulation du tonus, c'est-à-dire qu'il va mettre par exemple trop de force pour fermer une porte ou pas assez de force pour, il est avachi pour tenir son corps. La coordination globale, donc c'est pour descendre des escaliers ou bien il va se cogner, se prendre les pieds dans les obstacles. Au niveau du regard, des difficultés pour lire un texte qui est très très dense, écrit en petits caractères, se repérer dans un tableau double entrée, poser une opération. Au niveau de la bouche, donc des difficultés à articuler ou à cracher ou à mastiquer, des difficultés de concentration naturellement, comme il a des difficultés à s'organiser, il a des difficultés à gérer deux informations en même temps, par exemple, il faut répéter, il peut être impulsif, il réfléchit pas, s'il a un trouble d'anticipation, il peut être très sensible au bruit, à tout ce qui est une hypersensibilité, il peut y avoir des troubles donc dans le repérage dans le temps. Au niveau social et relationnel, cet enfant peut avoir des difficultés de relations avec les autres parce qu'il a parfois des attitudes inhabituelles, les gens ne comprennent pas, ses copains ne comprennent pas, qu'il ne peut pas faire des mouvements qui semblent évidents pour tout le monde. En plus, il se tient ou trop près, ou mal, il ne regarde pas vraiment s'il y a des problèmes au niveau des yeux, il ne regarde pas vraiment en face, hein, s'il y a des torsions de l'œil. Il peut parler trop fort ou battre des bras quand il est excité. Et aussi, il a du mal, s'il a des problèmes visuaux, à repérer les émotions sur l'autre et donc à les retranscrire, parce que communiquer avec l'autre, c'est avoir un ensemble, c'est une gestualité, hein, une posture de la tête, une façon d'être au corps qu'on apprend par imitation et que lui a du mal Donc, il a aussi des troubles parfois posturaux. On a souvent des enfants qui ont quelquefois des scolioses ou qui ont des attitudes scoliotiques, qui ont les pieds... on a une impression qu'ils ne sont pas centrés. Parce que pour être centré, au niveau notamment vestibulaire, c'est-à-dire des canaux semi-circulaires, il faut que toutes ces petits niveaux nous renseignent correctement sur notre position. Donc on a des troubles aussi au niveau d'une façon d'être, au niveau social. D'autant que c'est pas très connu et que ça sent. Alors ces enfants utilisent souvent très très bien le langage. Et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'appuyer, sur des enfants qui parlent très très bien souvent, parce que c'est vraiment quelque chose, ils sont, et d'ailleurs pour leur expliquer quelque chose, il ne faut pas forcément leur montrer, même si on montre toujours, mais il faut surtout leur parler avec un vocabulaire très très pointu, très précis. Et donc eux utilisent ce vocabulaire très pointu, c'est-à-dire qu'on va pas dire regarde dans l'étagère pour trouver tel livre, mais regarde sur le tiers supérieur gauche de la première rangée ou de la première planche. Il faut être très 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 précis. On peut jouer comme ça, au nord-ouest, et voilà, dans l'angle de 15 degrés quand le niveau est très haut. Il faut être très précis au niveau du vocabulaire. Et donc, ces enfants sont très dérangeants parce qu'ils ont un très beau vocabulaire. Ils utilisent beaucoup le langage et dans le faire, ils sont en difficulté.
Cette maladie est-elle inconnue du langage médical du Pas-de-Calais ?
Il y a beaucoup d'orthophonistes, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au langage, mais au langage oral. Ce qui est intéressant et ce qui fonde en fait l'individu, c'est le langage non-verbal. Le langage non-verbal, ce sont les gestes, c'est-à-dire que si j'exprime ma tristesse ou plutôt ma gaieté, on va dire, en disant « je suis gay », je ne suis pas crédible. Donc, c'est bien mon langage non-verbal qui va me servir en communication. Or, on oublie parce que ce sont des adultes et les adultes sont passés à un état où on met en mots, M-O-T-S, ce qui a été mis en acte. L'acte, c'est un geste, c'est un acte. On met en acte et ça, c'est un peu oublié. Donc, les praxis, on a l'impression que c'est évident. Tous les gens, mais c'est évident de tourner un bouton de porte, c'est évident de marcher. Or, quand on sait qu'un enfant met quand même 17-18 mois, ou 14 mois d'ailleurs, à marcher, on voit que c'est pas si évident que ça, et qu'avant qu'il ne prenne sa cuillère, toutes les personnes se souviennent combien il a pris sa cuillère dans n'importe quelle position, et que lui-même a eu ce courage, en fait, de continuer malgré tout. Donc, on voit que l'enfant est naturellement très courageux, très persévérant. Puisqu'il arrive à faire ça. Mais on oublie un peu ces fondations de l'être humain, pour ne plus voir que, à la limite, les murs et le langage, ce serait un peu la maison extérieure, alors que ça n'est pas reposé sur les fondations. Alors, il s'avère en tout cas dans le Pas-de-Calais, mais c'est aussi, je pense, quelque chose d'un peu national, on attendrait, pour avoir le terme dyspraxie, qu'il y ait 2 ans de retard au niveau scolaire. Parce que ce serait vraiment un gros trouble. Alors ensuite, on a des troubles praxiques qui sont un peu moins importants et qui tiennent sur un cas. Mais on connaît plein d'adultes qui sont très intelligents, qui sont des niveaux très très bons et qui ont des trous dans leurs connaissances, notamment dans l'espace par exemple. Et ça peut déranger. Mais à cette époque-là, on n'a pas fait attention. Vous avez l'adulte qui dit « moi, je me repère pas du tout quand je sors de quelque part, je ne saurais jamais retourner, voilà, je suis incapable d'acheter un bureau de coin alors qu'il est ingénieur » ou voilà, des tas de choses comme ça. Donc, il y a quelquefois des trous, bien des gens à qui on a dit « a toujours été maladroit ». Donc voilà, ça. Alors dans le Pas-de-Calais, d'abord la dyspraxie c'est très récent, on en parle récemment, on parlait plutôt de maladresse. Je ne sais pas si c'est dans le Pas-de-Calais, mais c'est vrai que c'est relativement récent dans les 4-5, même si moi-même, qui ai quand même 35 ans d'exercice, dans ma nomenclature de psychomotricienne, il est marqué maladresse dyspraxie. On a beaucoup cru que c'était quelquefois des problèmes psychologiques, parce que ça peut arriver que des troubles praxiques soient liés à un problème relationnel.
C'était le docteur Anne Lambert, psychomotricienne à Lambrelet-Douai. Une interview menée par le jeune Alain. Alain a participé pendant les dernières vacances de la Toussaint à un stage de découverte radio avec PFM. Il avait souhaité aborder cette question de la dyspraxie. Si vous voulez avoir plus de renseignements, un site internet, celui de l'association dyspraxique mais fantastique, DMF, et c'est le www.dyspraxie.info. Ça s'appelle D-Y-S-P-R-A-X-I-E. Et puis à noter que ce samedi 13 novembre, du côté de Paris, a lieu la journée d'automne, troubles du développement du geste et dyspraxie de l'enfant. Et c'est organisé par la Société francophone d'études et de recherche sur les handicaps de l'enfance. Dans un instant, dans Info 30, l'agenda du jour.